Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui au Majestic à Compiègne, le cinéma Majestic, avant une projection d'un documentaire qui s'appelle « Vivre avec les loups » de Jean-Michel Bertrand. Et je suis avec Bernard Debargue qui va animer donc cette séance et le débat qui suivra le documentaire. Bernard fait partie du collectif « Les veilleurs de la forêt de Compiègne » et « Nous aimons la forêt de Compiègne ». Bonjour Bernard. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît. Est-ce que tu peux me parler de ce documentaire ? Il est sorti déjà il y a quelques temps sur les écrans. Se vivre avec les loups, donc.
Alors, c'est le troisième épisode d'une série qu'a réalisé Jean-Michel Bertrand. Le premier épisode s'appelait « La vallée des loups ». En fait, Jean-Michel Bertrand habite dans le Champsaur, au sud des Écrins, dans les Alpes françaises. Et il a trouvé sur place l'existence de loups à travers des traces, ce qui est en général les premiers indices que l'on en a. Il a été fasciné. Il a découvert l'existence d'une meute dans une vallée à proximité. Il en a fait un documentaire, un premier qui a eu beaucoup de succès. Il a enchaîné avec un second qui s'appelait « La marche des loups » et dont l'objectif était justement de retrouver la vie de la meute à travers ce qu'on appelle la dispersion, c'est-à-dire le départ des jeunes adultes de 1 ou 2 ans parce que trop gros et donc trop important à nourrir. Et donc, pour privilégier les jeunes louveteaux, la meute impose aux jeunes adultes de partir à l'aventure. Et donc, il suit comme ça la remontée d'un loup qui part donc de cette vallée-là et qui va s'installer dans le Jura. Sauf que le deuxième film a provoqué beaucoup, beaucoup plus de retours négatifs que de retours positifs, finalement, même s'il a eu du succès, en particulier de la part des éleveurs et des chasseurs, bref, de ceux qui habitent ces territoires. Et donc, il s'est confronté à la réalité des problèmes de coexistence entre l'humain et les activités humaines, en particulier pastorales. Alors ça a posé évidemment énormément de situations de conflit et il a voulu surtout aborder le sujet d'une façon utile à la fois pour nous, citoyens lambda, qui voyons parfois le loup d'une façon ou extrêmement négative ou extrêmement poétisée, romancée, imagée, en ayant l'impression que c'est superbe que le loup revienne. Ça fait bouger les équilibres qui sont souvent assez anciens et tout l'intérêt du film, c'est de donner la parole aux différentes parties prenantes pour se rendre compte qu'en fait, comme dans tout groupe humain, il y en a qui sont complètement réfractaires et rébarbatifs à ce genre d'éléments nouveaux dans leur gestion technique, voire industrielle, de l'élevage ovin, essentiellement, donc pour les moutons et les brebis. Et puis d'autres qui, au contraire, cherchent à s'acclimater et à s'adapter, finalement, à ce qui est l'histoire. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le loup et l'homme vivent sur ces mêmes territoires depuis plus de 200 millions d'années.
Donc ils ont le droit de revenir, les loups.
Ils sont aussi chez eux. Voilà. Et de savoir à qui appartient la Terre est une question assez fondamentale. On est tous, quelque part, aujourd'hui, conscients de cela. On lutte contre l'artificialisation des sols, on fait attention à la ressource en eau. Ça crée beaucoup, beaucoup de situations conflictuelles parce que les intérêts s'opposent. Et les intérêts des éleveurs, c'est d'avoir le maximum de brebis ou le maximum, en tout cas, d'animaux à produire pour l'élevage ou pour la viande. Et l'intérêt des loups, c'est de trouver des nourritures souvent assez faciles. Mmh. Et les troupeaux non protégés sont une nourriture facile. Le film met l'accent dessus d'une façon utile et constructive. En tout cas, c'est l'image qu'il en projette. On verra au niveau du débat les questions qui vont se poser.
Ça, c'est donc le troisième volet. Hein.
Oui, le troisième et, je pense,
comment
dernier volet.
Comment vit-on avec les loups selon les différentes populations, en fait ?
En ouvrant des possibles, c'est-à-dire en disant c'est possible de coexister, en trouvant des moyens qui montrent aux loups qu'on est chez nous sur une partie. Donc on protège les troupeaux, on ne les laisse pas simplement à l'estive en les abandonnant.
Avec les patous notamment, c'est
en
ça,
particulier, ouais. Effectivement, avec les chiens de protection, dressés pour ça.
Les patous font peur aussi.
Aussi.
Ça, c'est un problème. Aux randonneurs,
oui,
donc en fait,
ça pose un problème collatéral, c'est celui de l'élevage de ces animaux-là. Mmh. Et là aussi, dans le film, on a des témoignages.
Ils sont surveillés par les bergers,
non plus.
C'est pas simple.
Voilà, d'élevage de chiens de protection qui ne sont pas assez rigoureux là-dedans. Et dans l'approche qu'ils ont aussi des autres utilisateurs de la forêt, que sont les randonneurs, les marcheurs, les skieurs, toutes ces personnes, toutes ces espèces, en fait, animales à 4 pattes ou à 2 pattes, doivent trouver aujourd'hui de nouveaux équilibres. Et c'est ce que le film tente de trouver.
Dans l'imaginaire des gens, le loup, c'est vrai qu'il a une certaine poésie pour beaucoup. Il fait peur aussi également. Enfin bon, c'est un mélange. Les gens ne savent pas pourquoi ils ont envie qu'il y ait des loups non plus. Donc ça, c'est assez rigolo.
En fait, à force de réfléchir, de lire, de rencontrer, de témoigner, c'est aussi pour ça qu'on m'a proposé d'animer ce débat. Je pense qu'il y a deux éléments clés. Il y a d'abord le chien en fait, le fait qu'on ait réussi à domestiquer,
même,
exactement,
bien sûr, hein,
exactement, oui. Mais on a réussi à le domestiquer et on en a fait notre ami. Et notre ami, on a du mal à imaginer qu'il puisse faire du mal à autrui.
Alors mais qu'un en fait, chien peut tout à fait faire du mal à autrui.
Il peut aussi le faire. On lui a un peu enlevé ses chromosomes de chien mangeur, oui. Carnivore, en lui donnant des croquettes. Mm-hmm. Quand on se balade et qu'on est sur la piste des loups et qu'on voit des crottes de chiens, on dit des crottes de croquettes. Quoi. C'est pas des crottes de viande, mm-hmm. Comme on retrouve dans des crottes de loups avec les poils mm-hmm. et les bouts d'os. On voit bien cette différence et on la marque par le terme croquette. Il y a donc l'aspect du chien et puis il y a aussi l'aspect de la vie de la meute. La vie sociale de la meute est pratiquement un des mondes animaux qui se rapproche le plus de la vie de la famille humaine, dans lequel on construit un mode d'éducation et on accompagne les petits vers leur destination, c'est-à-dire la liberté. Et finalement, on trouve énormément de parallèles à faire entre la vie d'une famille humaine et la vie d'une famille de loups. Et je pense que ça aussi, ça provoque beaucoup, beaucoup d'émotions et d'interactions quand on parle des loups.
Il y a une sorte de parallélisme, en fait.
Oui, il y a un parallélisme, c'est de l'anthropomorphisme. Non, je ne pense pas qu'on se projette dans le loup, on peut se projeter dans plein d'autres animaux. C'est assez marrant aussi, mais là, ce n'est pas le sujet du jour, avec les ours, parce que l'ours en peluche, lui, par contre, il ne projette pas d'image négative. Mmh. Sauf que celui qui peut vraiment, aujourd'hui, apporter de l'agression sur l'humain et vraiment le tuer, c'est l'ours, ce n'est pas le loup. Il n'y a aucune preuve, aucun même indice qu'il y ait des attaques de loup à l'homme.
Oui, le loup n'attaque pas l'homme.
Mais non, il est trop furtif.
L'homme est un loup pour l'homme.
Thomas, on est quand même la seule espèce du monde qui est capable de tuer son semblable, entre guillemets, le territoire, voire parfois le plaisir.
Aucune réponse. Bon, mais c'est sûr, il n'y a pas de jeune.
Est-ce que les mères donc, accompagnent longtemps leurs petits?
Alors, une première année. C'est une première année.
Et au bout de seulement un an, d'accord.
Alors, un an pour les plus costauds. Dès lors qu'ils ont franchi le cap de la première année et que les louveteaux de l'année passée, ce qu'on va appeler des subadultes, voient arriver la nouvelle portée, ils savent que de toute façon, ça fait des bouches à nourrir en supplément, mmh. en trop quelque part. Et que de toute façon, la louve et le loup, les alphas, le couple alpha de la meute, va de toute façon privilégier les plus faibles, donc ceux qui sont nés de l'année. Et donc, en un an, idéalement, un loup doit avoir appris à se débrouiller seul, mmh. en clair, à chasser seul. Ce qui changera beaucoup de choses dans la vie de ce loup, c'est la possibilité de refonder très rapidement une autre meute, donc de retrouver sur son chemin de dispersion un autre loup du sexe opposé. Si c'est une jeune louve qui part, ben, il faudra qu'elle trouve un jeune loup et inversement. Si il est mal éduqué, s'il est mal élevé, entre guillemets, voire si les loups alpha de la meute ont été abattus par un tir de régulation ou par un accident ou par des chasseurs ou par des braconniers, souvent, c'est ce qui malheureusement arrive aujourd'hui, les meutes sont dispersées avec des jeunes loups qui n'ont pas été suffisamment préparés et qui vont aller à l'excès de simplicité, qui vont s'approcher des villages, qui vont s'approcher des troupeaux, qui ne vont pas être suffisamment intelligents dans leur processus d'éducation par leurs parents, et qui donc vont prendre des risques, et malheureusement, là aussi, stigmatiser toute l'espèce. C'est tout un enchaînement, finalement, de responsabilités, et la meute est assez vectrice de cette qualité d'éducation, pour peu qu'on la fasse pas exploser.
Et pourquoi tu t'intéresses aux loups à ce point-là?
Comme tous les gamins, en fait, je pense, ni plus ni moins au départ. C'était aussi parce que je voulais les prendre en photo. C'était aussi un de mes objectifs photographiques.
On a vu dans le coin, parce qu'il paraît qu'il y en a de temps en temps qui passent, mais qui ne s'installent pas.
Voilà, alors mm-hmm. c'est aussi ce qu'on va
donc
sûrement
c'est
évoquer. C'est du passage.
Trouver, j'imagine, du coup.
Alors, ouais. Sur la région, non, je ne l'ai pas encore vu. Mais j'ai un collègue photographe qui, dans l'Aisne, a fait des photos tout à fait spectaculaires et prouvées aujourd'hui, certifiées par l'Office français de la biodiversité, qui est l'administration qui gère le sujet du loup, comme étant effectivement la preuve de la présence au minimum d'un loup de passage. En l'occurrence, moi, ce collègue photographe a photographié une louve en train d'attaquer une biche. Et on a l'attaque photographiée, quelque chose que moi je n'ai jamais vu.
C'est spectaculaire, ça.
Très spectaculaire, effectivement.
Il est resté en affût pendant des heures, alors j'imagine.
Non, c'est de la rencontre d'opportunité, en fait. Ici, c'est de la rencontre d'opportunité. Quand je vais en Pologne, quand je vais en Italie, là, par contre, on fait des affûts. Mmh. On sait où sont les traces, on sait où sont les pistes, on sait où on a un peu plus de chances de les voir qu'ici. Mais non, ici.
Il l'a vu à la tombée du jour, hein.
Ah non, non, les photos sont en pleine journée.
C'est étonnant.
Et c'est vraisemblablement un animal qui avait vraiment faim, donc il s'est levé un certain nombre de précautions qu'il devrait normalement prendre, effectivement, plutôt chasser la nuit et dans des secteurs abrités. Mais quand la faim le taraude, qu'il n'a pas mangé depuis peut-être une semaine, il y a vraiment une urgence pour lui à se nourrir. Et là, pour le coup, il tombera sur la première proie. Si c'est une biche, moi j'ai trouvé par exemple des cadavres de sangliers en forêt de Compiègne qui correspondent exactement à la typologie d'attaque des loups sur ce genre de proie. Il y a une façon très très particulière d'attaquer sa proie et de découper complètement, mais quasiment comme un boucher, de façon extrêmement précise, l'ensemble des belles parties, des parties les plus nobles, pour s'en nourrir. Et il va laisser tout ce qui n'a pas pour lui de valeur. Il le fait de façon extrêmement chirurgicale. Ouais. Quand il le fait de façon assez posée comme ça, c'est qu'on a affaire à un loup déjà expérimenté. Mmh. Même s'il n'a qu'un an ou deux, il est déjà assez expérimenté. Mais par contre, quand ils sont trop jeunes, malheureusement, ils prennent énormément de risques. Il peut y avoir des accidents automobiles. Il y en a eu un pas très longtemps en forêt de Fontainebleau, ce qui prouve que même en forêt de Fontainebleau, qui est à peu près notre équivalent, hein, au sud de Paris, nous sommes au nord de Paris, un loup a été retrouvé tué. Et là, les preuves aussi par son ADN l'ont été apportées. Mmh. Il a été tué par un choc automobile. Donc c'est un loup qui était en panique, qui n'était absolument pas caché, qui n'était pas protégé et qui s'est retrouvé face à une voiture en pleine nuit.
Donc toi, de toute façon, tu es pour que les loups se réinstallent sur le territoire. Alors,
je suis pour pas intervenir.
Naturelle.
Je suis pour pas intervenir, pour trouver en tout cas avec les éleveurs de la région là, et les chasseurs aussi des raisons de coexister et de quelque part se partager les espaces pour peu qu'il reste quelques espaces sauvages. En tout cas, l'objectif du film, que je soutiens bien sûr, c'est d'essayer de trouver des informations à donner à toutes les parties prenantes pour éviter de monter dans les watts, de monter dans les tours, de renouer le fantasme, parce qu'on est quand même arrivé en France à éradiquer totalement le loup au 19e siècle. Et pour citer peut-être un chiffre intéressant...
Et pourquoi on l'éradiquait à ce moment-là ?
Mais parce que la pression en nombre justement des loups était telle
qu'ils
étaient trop nombreux. François Bovy, qui est un auteur qui avait publié un livre spécifiquement sur la présence du loup en Picardie pendant l'histoire, avec tous les relevés des procès-verbaux de gendarmerie, de police à juin, etc., a dénombré plus de 5000 loups tués en Picardie au 19e siècle. Aujourd'hui, la population française est estimée à 1000.
Okay.
Il faut imaginer la présence qu'avait le loup à l'époque.
Partout,
donc il y avait vraiment un problème de partage des territoires à l'époque. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait 5000 loups en Picardie, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a largement de quoi partager le territoire et de ne pas aller chercher des obsessions à éradiquer une espèce.
Mais s'ils se réinstallent ici, imaginons, enfin après, s'ils trouvent des aires qui soient suffisamment...
Sauvage,
s'installer. Ça va être compliqué en forêt, à mon avis.
Oui,
il n'aura pas le calme qu'il lui faut.
Mais non,
il risque d'être chassé par des chasseurs, en fait, si jamais...
Oui, chasseurs et même non officiellement, par les braconniers. Le prix sur le marché noir d'une tête de loup ou d'une dépouille de loup doit être très important. Je ne sais pas oui, parce qu'évidemment, c'est un trophée rare. On ne va pas le publier parce que c'est impossible. C'est une espèce encore protégée. Pour quelque temps, on l'espère, parce qu'il y a quand même des remises en question compte tenu de l'augmentation des populations. Mais si ça reste une espèce protégée, le simple fait d'avoir une dépouille ou une tête de loup ou une patte de loup à vendre au marché noir est sûrement quelque chose de très très intéressant pour des acheteurs peu scrupuleux. Oui.
Bon, qu'ils ne se réinstallent pas trop ici alors.
En tout cas, qu'on accepte qu'il se réinstalle et qu'il
partage. Il aura du mal à trouver un endroit qui lui plaise.
Ouais, voilà. On estime qu'il faut à peu près 10 000 hectares pour installer une meute. Aujourd'hui, la forêt de Compiègne fait 14 000. Donc techniquement, on le peut, mais elle est traversée de routes. Elle est occupée 7 jours sur 7. La chasse attire, la chasse accourt, les promeneurs, les cyclistes.
Non, c'est pas une forêt tranquille.
Non, elle n'est absolument pas faite pour installer une meute, une tanière, élever des petits, leur apporter la nourriture suffisante. Ce n'est pas du tout un contexte adapté. Mais effectivement, sans aucun doute du passage, oui, des rencontres. Je pense qu'on va justement, pendant le débat, pouvoir lever un certain nombre d'inquiétudes là-dessus, sur la rencontre avec le loup qui n'est pas dangereuse en soi.
Très bien, merci beaucoup Bernard.
T'en prie Anne-Laure, c'est un plaisir.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais au cinéma Le Majestic à Compiègne pour la projection du documentaire « Vivre avec les loups » de Jean-Michel Bertrand, en compagnie de Bernard Debargue, du collectif « Nous aimons la forêt de Compiègne » et « Les veilleurs de la forêt de Compiègne ». Qui animait donc le débat, la séance de ce documentaire. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.